Mangez vrai, parce que l'alimentation fait débat.
Bonjour Laura.
Bonjour Henri.
Eh bien voilà, on arrive tranquillement vers les fêtes de fin d'année, mais il y a une question qui nous taraude l'esprit. Surpoids, obésité, si c'était le stress et non pas l'alimentation. Est-ce qu'on peut se poser réellement cette question? Et quel lien peut avoir le stress avec le surpoids et l'obésité?
Eh bien, effectivement, c'est une très bonne question parce que le surpoids et l'obésité, en fait, ne sont pas que des conséquences d'une mauvaise alimentation. D'autres facteurs entrent en jeu, bien comme le stress, des problèmes hormonaux, par exemple, ou un mauvais sommeil, qui peut d'ailleurs lui-même provenir du stress. Alors aujourd'hui, effectivement, nous allons parler du stress pour comprendre comment il peut engendrer des problèmes de poids. Alors, il faut savoir que le stress engendre une sécrétion de cortisol, qui est une hormone stéroïdienne produite par les glandes surrénales, aussi connue sous le nom d'hormone du stress. Et ce mécanisme est normal et finalement vital, puisque c'est ce qui nous permet de réagir en cas d'urgence ou de tenir le coup dans des situations qui demandent beaucoup d'énergie. Mais cela ne devrait durer que quelques minutes, voire quelques heures. Or, de nos jours, en fait, certaines personnes sont constamment en état de stress et donc sécrètent trop de cortisol. Et en excès, on va le voir, le cortisol entraîne des déséquilibres et peut engendrer une prise de poids.
Alors justement, quel rôle a le cortisol sur la prise de poids?
Eh bien, plusieurs mécanismes peuvent se mettre en place. En fait, le cortisol est ce qu'on appelle une hormone de stockage parce qu'elle permet de stocker de la masse adipeuse et surtout au niveau abdominal. Or, cette graisse autour des viscères est dangereuse parce qu'elle entraîne des troubles du métabolisme qui, sur le long terme, engendrent des maladies cardiovasculaires, du diabète ou de l'hypertension. C'est aussi une hormone hyperglycémiante parce qu'elle engendre un relargage de sucre dans le sang, ce qui induit une sécrétion d'insuline en réponse au taux de sucre élevé et puis, sur le long terme, une résistance à l'insuline et une prise de poids. Et donc, qui dit résistance à l'insuline, traduit aussi un risque accru de diabète sur le plus long terme. Et on sait aussi que bien souvent, le stress nous pousse vers des aliments doudous, qui sont des aliments souvent industriels, gras et sucrés.
J'adore doudou. Moi, ça nous conforte en fait.
Eh bien oui, je pense qu'on a tous vécu ça d'ailleurs. Après un moment ou une journée éprouvante, ça peut aussi être de boire un verre d'alcool pour décompresser. Mais ce sont des attitudes que l'on adopte en réaction au stress parce qu'on a le sentiment que ça nous détend et de fait, cela nous procure du plaisir immédiat. Mais sur le long terme, en fait, ces habitudes engendre plus de mal que de bien. Et c'est une situation difficile à gérer parce que la prise de poids entraîne à son tour du stress pour l'organisme, donc une sécrétion de cortisol. Et sachant que le stress peut aussi venir d'une mauvaise flore intestinale, puisque des neurotransmetteurs sont synthétisés dans l'intestin et agissent via une communication intestin-cerveau. Or, on l'a vu aussi, une mauvaise alimentation entraîne un mauvais microbiote et peut donc engendrer du stress en plus d'engendrer du surpoids. On rentre alors dans un cercle vicieux, et c'est pourquoi je répète à chaque chronique qu'il est primordial de manger des aliments bruts le moins transformés possible, bref, de manger vrai.
De manger vrai, et à cette occasion, j'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'à partir du mois d'avril 2022, Mangez vrai, justement, avec vous Laura, nous allons partir sur les routes de France pour cette grande tournée nationale et citoyenne, hashtag obésité, nos fatalités. Et là, nous aurons autour de la table des experts et nous essaierons d'apporter beaucoup, beaucoup de réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors nous, on va se relaxer avec un titre avant de se retrouver. Et on va écouter Mika, Relax, Take It Easy. Pas très facile à dire, hein. Moi qui ne suis pas anglophone.
C'est anglais, mais je dis, allez, tant pis.
Allez, tant pis, on se met un titre anglais. C'est parti, on écoute.
Une info, un message, un coup de cœur. Retrouvez Mangez Vrai sur Facebook.
C'était Mika sur Manger Vrai, première radio dédiée à l'alimentation, mais pas que. Alors ce matin, on parle d'obésité et de stress avec Laurent. On a vu un petit peu tout ce que, dans cette première partie, et notamment quel rôle avait le cortisol sur la prise de poids. Peut-on avoir une résistance, Laura, au cortisol, tout comme il existe une résistance à l'insuline?
Eh bien oui, un excès de cortisol peut aussi entraîner une résistance au cortisol, ce qu'on appelle une hypercortisolémie. Et du coup, les conséquences peuvent être tout d'abord une augmentation de l'appétit et une baisse de la satiété via le dérèglement de deux hormones qui gèrent la sensation de faim. On a la gréline pour la faim et la leptine pour la satiété. Ça engendre aussi une augmentation de la masse grasse parce que la lipolyse ne se fait plus correctement et ça engendre une baisse de la masse musculaire. Un mauvais fonctionnement de la thyroïde. Or, la thyroïde a un rôle majeur sur la régulation du métabolisme et donc sur le poids. Et puis, une insuline qui devient inefficace, d'où l'insulinorésistance dont je parlais tout à l'heure, ce qui provoque un excès de stockage des graisses en augmentant la lipogénèse. Or, le stress devrait rester ponctuel. Autrement, le stress prolongé engendre une situation de résistance qui mènera inévitablement au burn-out, qui correspond à une phase d'épuisement psychique et physiologique.
D'ailleurs, en ce sens, de plus en plus de personnes sont quotidiennement stressées. L'actualité est là pour nous stresser de plus en plus. Que conseillez-vous ?
Eh bien, en cas de stress chronique et pour éviter l'épuisement des glandes surrénales qui sont constamment sollicitées et qui mènera petit à petit à un état de fatigue chronique physique et psychique, en fait, qu'on peut appeler le burn-in, qui se finira par un burn-out s'il n'y a pas de prise en charge. Dans ce cas, la prise en charge, en fait, doit être globale. Il est effectivement bon de traiter l'assiette parce que des déséquilibres sont malgré tout souvent présents. Donc en micronutrition, il est important de se supplémenter en magnésium parce que ce minéral est très sollicité en cas de stress. On va aussi avoir des fuites au niveau urinaire du magnésium avec un grand stress. Et on peut aussi envisager des probiotiques, puisqu'on a vu qu'une bonne flore intestinale avait son rôle à jouer sur l'axe intestin-cerveau. On a aussi les précurseurs de la sérotonine avec la griffonia, par exemple, qui contient, c'est un petit peu plus compliqué, mais qui contient du 5-HTP, sans oublier les oméga-3 qui nous aident à lutter contre le stress. Et j'aime bien préciser aussi que le café le matin au réveil n'a aucun impact sur notre forme et sur notre énergie, puisqu'en fait, nous sécrétons déjà naturellement du cortisol.
Alors, c'est faux de dire que le premier café du matin est signe de tonus ?
Oui, c'est pas lui qui... En fait, on sécrète déjà du cortisol, donc la caféine n'aura pas d'impact sur notre énergie. En fait, le café il sera plutôt utile vers 10h30, 11h. Lorsque cette hormone baisse dans l'organisme.
C'est bien noté. Donc, c'est bien parce que je prends un café à 10h30, moi. C'est bien, c'est parfait.
Ben voilà. Mais est-ce que vous en prenez un au lever ?
Eh oui, c'est la première chose que je fais avant de déjeuner. Je prends mon café avant de me mettre devant l'ordinateur. C'est pas bien tout ça.
Et est-ce que vous buvez le verre d'eau avant tout ça ?
Non.
Ou c'est du café ?
C'est du café.
À jeun ?
À jeun.
Sur l'estomac ?
Sur l'estomac.
C'est pas très sympa pour lui. Et du coup, il faudrait mieux au réveil préférer le thé ou la tisane, parce qu'on a surtout besoin d'une boisson chaude en fait qui réveille notre système digestif. Et puis comme je le disais, sans oublier le verre d'eau au lever avant toute boisson.
Avec un peu de citron ?
On peut, oui. On peut se presser un petit citron dans le verre d'eau.
Parce que l'eau fade, c'est fade le matin quand vous vous levez de...
C'est une question d'habitude.
Bon, d'accord.
Moi, mon corps, maintenant, il me le réclame tous les matins.
Je tends mes doigts, vous pouvez taper sur mes doigts, Laura.
Et puis, en plus de l'hygiène alimentaire, on travaille évidemment la gestion du stress pour diminuer le cortisol. Pour cela, beaucoup de thérapeutes compétents sont présents. Et c'est à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux. Les méthodes sont nombreuses. On va avoir la sophrologie, l'hypnose, le shiatsu, la réflexologie, l'acupuncture, la méditation, la cohérence cardiaque, le yoga, la naturopathie, la phytothérapie, parce que de nombreuses plantes peuvent aider, notamment les plantes dites adaptogènes. Sans oublier l'activité physique qui ne doit pas être en option parce qu'elle est indispensable à tous. Mais... comme je le dis aussi souvent, des entraînements trop longs ou trop durs sont considérés comme un stress pour l'organisme et donc augmentent notre sécrétion de cortisol. Tout est question d'équilibre. Et sachant que la chose la plus importante à faire, c'est de mettre le doigt sur la cause de ce stress pour pouvoir y remédier. Est-ce que c'est le travail ? Est-ce que c'est la situation familiale ? Le lieu de vie ? Le contexte social ? Les causes peuvent être multiples et il est bien de les détecter. Et bien sûr, après, on ne peut pas éviter le stress, mais on peut le réduire et apprendre à y faire face.
On aura l'occasion de revenir justement sur toutes les causes de l'obésité, puisque nous essaierons une fois par mois de parler de cette maladie, parce qu'il s'agit bien d'une maladie.
Bien sûr.
En tout cas, merci Laura pour tous ces éclairages. Alors, je rappelle que tous les liens utiles à tout ce que nous dit Laura sont accessibles sur notre page internet www.manger-vrai.net et que n'hésitez pas, vous avez des questions, on le rappelle, il faut poser vos questions, vous avez des interrogations, vous avez un petit bouton à votre disposition sur notre site internet. Et puis si vous voulez rééquilibrer votre alimentation, je vous recommande qu'un seul site, c'est
lauralie.fr.
Ah oui, j'ai oublié la question, ça c'est important, il commence à prendre
un petit peu
le réflexe de nous poser des questions. Alors on vous écoute.
Et c'est une question de Marion, 33 ans, qui me demande, en fait, elle est enceinte et elle fait du diabète gestationnel. Et elle aimerait savoir quels sont les conseils alimentaires. Et donc, je dirais que le mieux, en fait, c'est de se faire suivre par une diététicienne, un médecin nutritionniste ou un conseiller en alimentation pour avoir des conseils adaptés et individualisés. Mais d'une manière générale, lorsqu'on fait du diabète gestationnel et si vous êtes en autosurveillance et pour éviter d'avoir recours aux injections d'insuline, il est important d'adopter une alimentation à index glycémique bas. Pour cela, d'ailleurs, je vous invite à écouter Marion, ma chronique que j'ai faite sur l'index glycémique et qui est disponible en podcast. Et il est bon de manger à heure fixe et de ne pas sauter de repas pour un meilleur contrôle de sa glycémie. Et je conseillerais aussi de manger protéiné le matin pour ne pas rompre le jeûne avec des aliments qui seront hyperglycémiants. Il ne faut pas non plus manger de pain aux repas qui contiennent déjà des féculents parce que le but, en fait, c'est de contrôler ses apports en glucides. Et puis, il est important de maintenir une activité physique régulière adaptée à votre état, bien sûr, parce que cela augmente la consommation de glucose qui, du coup, sera utilisée directement par les muscles. Et en plus, l'activité physique augmente la sensibilité à l'insuline.
Voilà, donc pour Marion, on lui fera directement par, dans le fait qu'on ait son adresse mail, on lui enverra directement le lien rapport à la chronique que vous aviez
du podcast.
Voilà.
Je vous rappelle aussi du coup que vous pouvez poser vos questions en cliquant sur le petit bouton. Posez votre question
sur www.manger-vrai.net. Et nous, la semaine prochaine, on se retrouve. Et oui, on va rentrer dans l'hiver déjà.
Oui, tout à fait.
Et il sera question de quoi alors ?
Eh bien, comment bien préparer son organisme à l'hiver.
Voilà, et nous, donc comme toute cette émission, bien sûr, est à retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast et puis sur notre site internet www.manger-vrai.net. D'ici là, portez-vous bien.
Une info, un message, un coup de cœur, retrouvez Mangez Vrai sur Facebook.